Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette émission du 22 avril 2016, nous allons parler de santé, de médecine, et plus précisément de la maladie d'Alzheimer, et plus précisément encore de la mnémothérapie musicale, avec celui qui a conçu, qui la pratique, tout en continuant ses recherches. Il y a quelques mois, un journal régional mettait en valeur 10 chercheurs de la région qui révolutionnent la médecine. Et l'un de ces 10 était le docteur Jean-Claude Broutard, ancien chirurgien, et comme chercheur et praticien, auteur d'une démarche unique pour la maladie d'Alzheimer. Nous l'accueillons en studio pour cette émission. Sachez, avant de l'accueillir, qu'il travaille à la Fondation Jean-Louis Noisier, à Biote, Sophie Antipolis, où il exerce, mais il nous en parlera, je pense, tout à l'heure. Alors, docteur, bonjour et merci d'accepter cet entretien.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, si vous permettez, je dirais Jean-Claude, et je vous invite, Jean-Claude, à faire un petit voyage en 6 étapes. Alors, je vais d'abord annoncer ces étapes, et puis ensuite, on va les reprendre les unes après les autres. Elles n'auront pas la même durée. La première, c'est quel est votre chemin faisant et vos motivations pour vous consacrer sur la mnémothérapie à la maladie d'Alzheimer, cela que vous avez inventé, que vous avez développé, que vous continuez de développer, pourquoi cela ? La seconde question, c'est la seconde étape, c'est brièvement, quelques repères sur cette maladie d'Alzheimer. La troisième et la plus importante, la mnémothérapie, d'abord d'où vient ce mot, la mnémothérapie musicale, de quoi s'agit-il ? Quels sont ses buts, son fonctionnement, ses résultats, ses perspectives ? La quatrième étape sera sur les perspectives du traitement de la maladie présentement et dans l'avenir. La cinquième sera votre diagnostic en France, sur la santé, sur la médecine, sur la situation actuelle et les annonces faites ça et là, y compris parfois d'une vie qui irait jusqu'à 300 ans, voire une vie éternelle. Enfin, la sixième sera une surprise si nous en avons le temps. Mais commençons par la première, Jean-Claude. Quel est votre chemin faisant et comment vous a-t-il conduit à ce que vous faites aujourd'hui ?
Le chemin a été simple. Je suis médecin. J'étais ancien interne, ancien chef et assistant des hôpitaux de Paris. Et je me suis installé en 76 à Cannes et à Grasse en tant que chirurgien orthopédiste. À Cannes, j'étais en privé à la clinique de l'Espérance et à la clinique Clinica. Et à Grasse, j'ai été l'attaché d'orthopédie pendant 20 ans à l'hôpital. Je veux dire que c'est 30 années ont été très heureuses pour moi et je pense pour mes patients. Et puis à 65 ans révolus, j'ai pris ma retraite et j'avais envie de refaire un tour de médecine parce que d'une part j'avais le sentiment d'être passé obligatoirement à côté de bien des choses et d'autre part peut-être j'avais encore des choses à dire ou à faire. Et donc je me suis inscrit à Nice pour faire ma capacité de gérontologie. Parce qu'en gérontologie, on refait à peu près toutes les spécialités. Et là aussi, ça a été tout à fait sympathique. J'ai passé 2 ans très riches d'enseignement avec le professeur Daniel Ballas et toute son équipe, que je salue au passage. Et la troisième année, voilà, c'est là que tout a commencé pour mon mémoire de gérontologie. J'ai abordé un sujet qui me paraissait passionnant, qui me paraît toujours passionnant, et je ne m'en lasse pas. Sujet donc que j'ai appelé la mnémothérapie. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait en fait d'essayer de transposer à la personne Alzheimer ce phénomène très particulier de réminiscence, reviviscence, qui sous-tend, vous le savez bien Michel, toute l'œuvre de Proust. Et cette œuvre de Proust commence par ce qui est resté le symbole, à savoir la Madeleine. Cette Madeleine, curieusement, est assez mal interprétée. Au bout de 100 ans, elle a le droit, bien entendu. Mais il y a un contresens qui me paraît moins important, qui me paraissait important à l'époque et que je vais vous expliquer. Lorsque l'on pense à cette Madeleine et que l'on demande à au lecteur proustien, ce que ça veut dire, ce que ça exprime, eh bien, aujourd'hui, presque toujours, on nous répond, c'est très simple, le narrateur prend cette madeleine, il la trempe dans le thé, et au moment où il la goûte, brusquement, tout son passé d'enfance lui revient en mémoire. Et ça n'est pas ça du tout. Le passé qui revient en mémoire, ça s'appelle un souvenir. La réminiscence n'est pas un souvenir. Alors c'est quoi ? Mais c'est une joie. C'est une joie. Et il suffit de relire les 5 pages que Proust consacre dans Du côté de chez Swann, le premier tome donc de son œuvre, à cette madeleine pour en être convaincu. Lui-même est sidéré de cette joie qui est profonde, qui est intense, bouleversante, dont il va jusqu'à dire « J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. » Ça n'est pas rien. Mais cette joie, elle est isolée, elle est pure, elle est sans pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il ressent cette joie, il la ressent profondément. Et ça n'est que bien plus tard, 5 pages plus tard en l'occurrence, et après avoir fait des efforts désespérés et ne pas y être arrivé, finalement, en lâchant prise, tout effectivement va revenir, mais revenir non pas sous la forme d'un souvenir, mais sous la forme d'une reviviscence. Quelle est la différence ? Un souvenir, c'est un outil mental. C'est un outil, donc, il a une fonction. Et cette fonction, c'est d'être là, immédiatement disponible, extrêmement schématique, utilisable rapidement dans notre espace de travail, qu'on appelle la mémoire de travail, et qui nous permet d'associer plein de choses et de développer ce qui s'appelle intelligere, l'intelligence, qui nous permet ainsi d'associer plein de choses. Mais cette fonction, elle lui impose à se souvenir d'être schématique et de ne pas être émotionnel. Il est bien évident que s'il était émotionnel et qu'on pleure toutes les 30 secondes au moment où un souvenir arrive, on aurait du mal à réfléchir rapidement. La reviviscence, au contraire, c'est toute une page de vie qui surgit dans le conscient et qui va nous amener des foules de détails et d'émotions qui vont enchanter et porter à son maximum cette joie de la réminiscence qui était apparue avant sans que l'on sache pourquoi. Donc c'était ça mon but initial. Est-ce que l'on peut transposer ce fait extraordinaire que nous avons tous connu un jour ou l'autre ? On se promène quelque part, puis on sent une odeur ou on entend une musique, et brusquement, cette joie, et puis éventuellement, eh bien, on retrouve secondairement toute une page de vie qui nous saute au visage. Donc c'est quelque chose que nous connaissons, qui existe, que Proust décrit merveilleusement, qu'il décrit d'ailleurs dans toute son œuvre. Il n'y a pas que la Madeleine, vous le savez bien. Et donc, il était très tentant, voyant à quel point une personne Alzheimer est enfermée en elle-même, isolée, eh bien, il était très tentant de se demander est-ce qu'on ne pourrait pas lui procurer cette joie d'abord et puis l'aider à aller jusqu'à la reviviscence. Alors, bien entendu, quelques questions se posaient en parallèle. Il fallait être sûr de ne pas nuire. Est-ce qu'on ne va pas réveiller des souvenirs néfastes ? Et puis ensuite, est-ce que l'on peut espérer que ce soit reproductible ? Parce que chez vous et chez moi, on peut vivre cette réminiscence, mais une fois. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour Proust. Il réessaye de manger un petit peu plus de sa madeleine, ça marche moins bien, puis une troisième fois, ça ne marche plus du tout. Parce qu'effectivement, l'imprévu est indispensable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense en tout cas, cette réminiscence n'a jamais vraiment été étudiée sur le plan scientifique, parce que n'est scientifique, vous le savez bien, que ce qui est reproductible. Or, comme là, on ne peut pas prévoir le hasard, eh bien, ça n'était pas reproductible, ça n'est pas reproductible chez vous et chez moi, et donc ça n'est pas étudiable scientifiquement. Par contre, c'est ce que je me disais, j'en étais pas sûr, bien sûr, mais par contre, chez la personne Alzheimer, puisque ce qui caractérise malheureusement cette maladie, c'est une perte de la mémoire consciente des faits récents. Autrement dit, ce qui s'est passé le lundi, le mardi, il ne s'en souvient plus. Eh bien, peut-être là, avons-nous la possibilité de rendre reproductible cette réminiscence, si nous avons pu, par une odeur ou par une musique, donner cette joie, ce qui est déjà formidable, et puis amené jusqu'à la reviviscence, qui est encore plus formidable, eh bien peut-être que le lendemain, nous, bien sûr, on s'en souvient, mais la personne Alzheimer ne s'en souvenant plus, peut-être que l'on peut reproduire tous les jours et de façon durable ce bienfait. Voilà l'origine de ce mémoire et du travail que je continue, parce que bien entendu, la réponse à ces questions ne s'est pas faite en quelques mois, et elle continue de se faire aujourd'hui au centre Noisier où je travaille.
Ce mémoire date de quand ?
2008.
Donc il y a déjà un nombre d'années, 8 ans, voilà. Sur laquelle vous travaillez, vous avancez. Alors ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est que c'est une sorte de rupture dans votre vie de médecin chirurgien. Vous abandonnez la chirurgie orthopédique, etc., pour vous ouvrir sur un champ tout à fait nouveau, la gérontologie, et plus précisément, une lecture de Proust qui sert de base à votre démarche, on va dire, inévitablement scientifique, mais au sens non reproductif, au sens d'ouverture, d'exploration, et vous découvrez que finalement ça marche.
Oui, tout à fait. Alors, une rupture, je ne crois pas. Pour être chirurgien, on n'en est pas moins homme, et je pense que le chirurgien n'est pas un technicien. C'est un médecin, et c'est un médecin qui a fait de longues études, donc il est passionné par la médecine, dans tous les domaines. Alors certes, il ne peut pas être consultant dans tous les domaines, il ne peut pas tout faire, mais il a l'envie, et en partie la compétence, de se pencher sur d'autres domaines, et de continuer finalement sous une autre forme, et c'est là qu'il n'y a pas rupture, d'exercer ce merveilleux métier qu'est la médecine.
Je dirais, mais ce n'est pas de très bon goût. Finalement, vous découvrez que vous prenez votre pied en faisant ce travail sur la mésothérapie. C'est
bien ça. Oui, bien sûr. Mais je crois que le plaisir ou le bonheur est extrêmement vaste parce que, certes, ce travail est par lui-même passionnant et effectivement me permet d'avoir beaucoup de plaisir. Mais je crois que le vrai bonheur, c'est de donner du bonheur aux autres et que le fait de voir une personne qui, 5 minutes avant, était isolé, perdu, brusquement retrouver le goût de vivre, retrouver la joie, retrouver la possibilité de se voir et de se raconter, donc de communiquer, c'est un bonheur partagé qui est typiquement médical.
Alors, comment se fait-il que c'est aussi peu développé encore à ce jour ?
La méthode elle-même ?
Oui.
Parce que toute méthode doit faire ses preuves, et celle-ci comme les autres, et les autres comme celle-ci. C'est évidemment réciproque. Au début, j'ai essayé de voir si on pouvait transposer cette joie. La réponse a été oui. Et puis, j'ai bien fait attention à ce qui se passait après mes séances, et tout le personnel, notamment de France Alzheimer, et là aussi, je les salue au passage, France Alzheimer à Nice, chez qui j'ai travaillé au début sur ce sujet, eh bien, moi, je travaillais le matin, et l'après-midi, bien entendu, les personnes que j'avais prises avec moi étaient particulièrement surveillées pour être sûr que le bonheur du matin ne se transformait pas en une nostalgie, voire un malheur l'après-midi. Ça n'a jamais été le cas, et ça n'a jamais été le cas depuis 8 ans. Donc je pense que l'on peut dire que pour différentes raisons qu'on ne connaît bien entendu pas ou pas encore, le fait de retrouver à travers une sensorialité, en l'occurrence la musique, mais ça peut être d'autres, bien sûr, sensorialités, retrouver son passé et le revivre, c'est toujours une joie. On peut évoquer, si vous voulez, la raison de cette joie.
Oui, c'est important. Je pense que nos auditeurs ont envie de savoir.
Bien sûr, on peut évoquer l'interprétation. Là, on n'est plus dans de la médecine, on est dans de l'interprétation. Mais enfin, ça fait partie aussi de notre vie. Lorsqu'au bout de 8 ans, on se rend compte que, à travers tous les ateliers que l'on a conduits, à travers toutes les réactions que l'on a vues, il n'y a jamais eu de réactions négatives, peut-être parfois une petite nostalgie, ah c'était ancien, ah j'ai connu tout ça, mais qui immédiatement est heureuse. Et jamais un patient ne m'a quitté sans me dire qu'il avait passé un moment merveilleux. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Eh bien, je vous donne une réponse, mais bien sûr, il peut y en avoir beaucoup. Je pense que ce qui est le plus terrible pour chacun d'entre nous, et en l'occurrence pour un patient Alzheimer, c'est de ne plus avoir accès, et nous allons en parler tout à l'heure, à ce qu'on appelle son monde intérieur. Et le fait de ne plus avoir accès à ce monde intérieur est extrêmement frustrant parce que on n'a plus de passé, on n'a plus d'avenir, plus de motivation, plus d'émotion. Si bien que lorsqu'à l'occasion d'une sensorialité ou d'un mot, la sémantique peut jouer aussi son rôle, eh bien on retrouve ce qui a vécu et qu'on le revit au présent, quel que soit le souvenir, le fait d'avoir à nouveau contact avec ce passé est en soi une joie. Vous savez, il y avait un philosophe qui est décédé il y a quelques années maintenant, Michel Henry, qui avait cette formule. Lui ne parlait pas du tout d'Alzheimer, hein, mais sa formule me paraît particulièrement éclairante pour une personne Alzheimer. Il disait, la joie, c'est quand il y a quelque chose plutôt que rien. Je crois que c'est ce qui se passe, que le fait brusquement de revivre quelque chose qui était complètement oublié, qui était mort et qui brusquement revit, donne ce goût de vivre et cette joie, quelle que soit la nature de ce qui revient. Alors j'ajoute tout de même que je n'ai pas l'expérience des syndromes post-traumatiques. Un certain nombre de mes confrères, notamment neurologues, en ont une grande expérience. Il va sans dire que si dans l'anamnèse auprès de la famille, j'apprenais qu'un de mes patients avait ce type de problème, bien entendu, je n'exercerais pas à ce moment-là la mnémothérapie.
Merci Jean-Claude, on va marquer une pause et je vais d'abord vous demander quelle est la musique que vous aimeriez entendre pour la fin de cette première partie.
Je serais content d'entendre Jacques Brel, que j'aimais beaucoup.
Jacques Brel, nous allons vous le mettre, mais au passage, je tiens aussi à rendre hommage à Michel Henry, que j'ai connu personnellement, avec qui j'ai dîné, je me souviens, un soir à Montpellier, qui était vraiment un très très grand philosophe et un homme merveilleux. Alors nous allons continuer cette découverte de la mnémothérapie, et puis nous reviendrons bien sûr sur l'étape de la maladie d'Alzheimer, mais très brièvement, car le débat ce soir, c'est bien la mnémothérapie musicale. Écoutons Jacques Brel, et je vous donne rendez-vous.
Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle. Le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
Reprenons, chers auditeurs, cet entretien avec le docteur Jean-Claude Broutard, qui exerce, je le rappelle, à la Fondation Jean-Louis Noisier, à Biot, Sophie Antipolis, et nous allons continuer cette réflexion avec lui, car sa démarche est tout à fait passionnante, et plutôt que de passer du temps inutile à parler de la maladie d'Alzheimer et autres, je crois que l'on peut dire tout simplement que cette maladie qui a été découverte, je crois, en 1906, rencontre un homme croissant de malades, et on ne voit pas aujourd'hui de médicaments traitement ou de réponse qui permettrait d'éradiquer la maladie totalement. Partant de ce fait que la maladie d'Alzheimer, selon les pronostics, va s'étendre, nous revenons à la mémothérapie qui donne des résultats musicaux tout à fait extraordinaires. Jean-Claude, je vous invite à continuer dans ce que vous nous disiez à l'instant.
Merci. Eh bien, on va parler effectivement de cette mémothérapie. D'abord, une définition pour que les choses soient le plus carré et le plus clair possible. La mnémothérapie est une approche thérapeutique, ce n'est pas un traitement. C'est une approche thérapeutique, non pas de la maladie elle-même, on n'a jamais guéri une maladie d'Alzheimer par mnémothérapie, mais c'est une approche thérapeutique des symptômes de la maladie d'Alzheimer qui consiste à faire réveiller et à faire s'épanouir les reviviscences des mémoires anciennes que l'on appelle mémoire rétrograde, et ceci de façon reproductible et durable. Voilà, là on a à peu près tout dit. Alors, si on veut être plus précis et se lancer dans l'aventure, eh bien, nous allons commencer par dire que les bases même de la mnémothérapie reposent sur la définition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Celle-ci, dès le début, et pour très longtemps souvent, bien que ce soit imprévisible, vous avez raison, mais très souvent, tout va se résumer à des troubles cognitifs de plus en plus importants, marqués essentiellement par cette perte de la mémoire consciente des faits récents. Voilà, ça c'est vraiment la base. Les problèmes de conscience sont importants à aborder, surtout aujourd'hui, bien qu'ils soient, comme toujours, quand il est question de la conscience, assez difficiles. La conscience est bien entendu normale chez le patient Alzheimer, mais elle semble vide. Et si vous voulez bien, je vais vous amener promener un peu avec moi pour vous raconter une belle histoire sur ce que l'on croit savoir aujourd'hui de la conscience. On ne sait toujours pas ce qu'est la conscience chez vous, chez moi, mais grâce à nos savants, et je salue ici des gens comme Stanislas Dehaene, Lionel Nakache, ou bien le professeur Francis Eustache, qui nous ont énormément appris, eh bien, on commence à mieux comprendre l'accès à la conscience, et puis le comment de cette conscience, même si on ne sait toujours pas ce que c'est. Un peu comme pour la vie, on ne sait pas ce que c'est, mais on connaît mille choses tout autour. Dans un état de conscience normale, pour vous, pour moi, nous sommes en permanence à passer entre deux modalités totalement différentes de cet état de conscience. La modalité exécutive et la modalité de repos. La modalité exécutive, c'est celle qui nous engage dans l'immédiateté des choses et qui va nous faire réaliser un travail psychologique ou physique avec toute l'attention qu'il nous impose. Et d'une certaine façon, on se perd dans un travail. On ne se retrouve que lorsqu'on l'arrête et on passe à ce moment-là dans l'autre modalité de la conscience qui est une modalité de repos que l'on appelle le réseau par défaut. Là, c'est tout autre chose. Il s'agit de notre fort intérieur, il s'agit de notre monde intérieur et d'une introspection qui va nous faire voyager à travers un esprit qui nous emmène où il veut et qui nous fait voyager dans notre passé, dans notre futur, dans l'ensemble de nos imaginations, de nos intuitions, et qui nous permet ainsi de nous enrichir et de nous ouvrir à des phénomènes que l'on peut appeler le domaine des possibles. Nous passons sans cesse de l'un à l'autre, et cette modalité de conscience par défaut s'avère extrêmement importante aujourd'hui. Qu'en est-il chez la personne Alzheimer ? Eh bien, très curieusement, il semblerait que la modalité exécutive soit parfaitement préservée, en tout cas pendant longtemps, alors qu'en revanche, la modalité de repos, le réseau par défaut, semble beaucoup plus perturbé. Tout se passe comme si, et là je parle en médecin, en clinicien, pas du tout en savant, mais cliniquement, tout se passe comme si le fait de ne plus avoir un passé immédiat, puisqu'il s'efface au fur et à mesure, empêchait la personne Alzheimer de se projeter dans ce monde intérieur. Et d'une certaine façon, d'avoir un passé, d'avoir un avenir, donc d'avoir des projets, donc d'être motivé, donc d'avoir des émotions. Et tout cela va être peu à peu diminué, atrophié, voire va disparaître, si bien que l'on est devant une personne dont les centres d'intérêt n'existent plus, qui n'a plus de motivation, qui n'a plus du coup d'émotion. C'est ce qu'on appelle l'apathie. Cette apathie est bien entendu dramatique, c'est le monde du silence. Et cette apathie est l'un des problèmes majeurs de la personne Alzheimer. Or, c'est dans ce réseau par défaut que va se développer la maladie d'Alzheimer. Donc voilà cette association malheureuse, et on comprend bien que cette amnésie antérograde, cette apathie, et puis cette vacuité apparente de la conscience vont se conjuguer et vont entraîner un tableau terrible qui va évoluer assez rapidement vers une perte de l'autonomie et qui va désespérer aussi bien l'entourage que la personne Alzheimer elle-même et conduire les uns au renoncement, les autres, c'est-à-dire les personnes Alzheimer, à l'isolement mortifère. Et pourtant, il persiste un trésor. Ce trésor, ce sont justement tous ces pages de vie, toutes ces pages de vie qui ont été imprimées, qui ont été encodées et stockées avant la maladie. Comment peut-on les utiliser? Comment peut-on y avoir accès? Ben, il y a deux façons d'avoir accès à cette mémoire rétrograde, à ce trésor. C'est soit la récupération ou le rappel direct ou récupération volontaire, soit la récupération involontaire, que l'on appelle volontiers le rappel indicé. La récupération volontaire, c'est simplement la formule bien connue, je me rappelle, on sent l'énergie que l'on met à retrouver un souvenir, et effectivement, ce que l'on va retrouver, c'est un souvenir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cet outil mental dénué d'émotions. Donc c'est extrêmement important, mais ça ne va pas amener à la reviviscence. Peut-on utiliser chez la personne Alzheimer cette mémoire volontaire? Eh bien non, parce que la mémoire volontaire, c'est en très grande partie l'hippocampe qui la permet. L'hippocampe est un peu comme un bibliothécaire, c'est lui qui a rangé là où il faut l'ensemble de ses pages de vie, et c'est lui qui va aller les rechercher là où il faut. Mais justement, il est malade, et donc ça ne va pas bien marcher. Qu'est-ce que ça donne sur le plan clinique? Ben, ça donne tout simplement le fait que la personne Alzheimer, avec qui il faut bien entendu dialoguer, mais très rapidement, elle ne va plus répondre aux questions, et elle va être elle-même désespérée de se rendre compte qu'elle oublie jusqu'au prénom de son mari, si c'est une femme, de ses enfants, et donc on va la rendre malheureuse, ce qui bien sûr n'est pas le but recherché. Donc ça n'est pas à cette mémoire volontaire qu'il faut faire appel, c'est à cette récupération involontaire que l'on appelle le rappel indicé. Alors que se passe-t-il dans cette mémoire involontaire? Eh bien, tout d'abord, elle est inconsciente. C'est un stimulus qui va la déclencher. On est dans une formule littéraire bien connue qui est « il m'en souvient ». Et on voit bien que c'est quelqu'un d'autre, un stimulus, qui nous permet de nous souvenir. Ce n'est pas nous qui recherchons. Il m'en souvient, et donc on va, grâce à un stimulus, réveiller quelque chose. Et ce quelque chose va arriver d'abord sous la forme d'une joie, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la réminiscence, ensuite sous la forme d'une reviviscence. Si l'on veut bien comprendre la spécificité de la mnémothérapie, je crois qu'il faut s'imaginer, même si c'est bien sûr approximatif, le parallélisme neuronal. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos neurones lorsque on entend un stimulus ? Eh bien voilà, au tout début, il y a donc 60 ans, Nous avons passé une journée à la plage, par exemple. C'était très sympathique. Il y avait plein de bonnes odeurs, de la musique, plein de choses. Et l'ensemble de ces éléments se sont imprimés dans notre cerveau. Certains vont être oubliés. Ils vont disparaître. D'autres vont certes être oubliés, mais vont rester toujours là. Et puis 60 ans se passent. Et au bout de 60 ans, à une occasion quelconque, la même musique, par exemple, qui a été entendue 60 ans auparavant, nous l'entendons à nouveau. Cette musique qui est transmise par un influx nerveux a bien entendu la même fréquence que la musique qui a été entendue 60 ans auparavant. Ces deux fréquences identiques vont donc vibrer à l'unisson. Elles vont entrer en résonance. Et cette résonance est formidable parce que la résonance, c'est l'amplification de la fréquence. Cette amplification va alors se projeter, se diffuser sur l'ensemble du réseau neuronal auquel cette empreinte musicale était connectée, et c'est l'ensemble de ce réseau qui va alors apparaître dans le conscient. Nous avons bien entendu appelé cette résonance la joie. Et vous avez bien compris, j'en suis sûr, que cette diffusion ensuite à l'ensemble du réseau neuronal mémoriel va être la reviviscence. Comment va se traduire cette reviviscence? Eh bien, dans l'exemple musical que nous prenons, c'est des cascades de mémoriels et émotionnels qui vont arriver. D'abord musical, c'est le thème musical qui est le premier reconnu. Et la personne va fredonner. Et ce n'est pas la peine de lui demander de le faire, c'est quasiment irrésistible. Et puis ensuite, c'est la mémoire sémantique. Les paroles vont revenir et la personne, émerveillée elle-même, va chanter les paroles alors qu'elle pensait absolument pas pouvoir s'en souvenir. Et puis ensuite, souvent de façon décalée, eh bien c'est toute la page de vie qui arrive avec tous les détails qui ont pu émailler cette journée et avec toute l'émotion de se retrouver et de pouvoir enfin communiquer avec une personne qui est là et qui, par son empathie, par sa présence, va permettre à cette reviviscence de s'exprimer. Voilà ce qui se passe. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois cet épisode responsable de cette joie et de cette reviviscence noté, eh bien, on sait que le lendemain, ce sera reproductible à l'identique, puisque la personne Alzheimer, elle, aura oublié, donc ce sera à nouveau imprévu. On peut dire, pour paraphraser Louis Aragon, que chez la personne Alzheimer, c'est toujours la première fois.
C'est très joli ce que vous dites, et puis on a envie de vous poser plein de questions. En l'occurrence, malheureusement, l'émission avance terriblement. Ce que vous dites est à la fois très très clair, et on se dit, finalement, pour se préparer, pour se former à cette pathologie, c'est entre 6 mois et 1 an. C'est-à-dire s'initier, comprendre les mécanismes, pouvoir les appliquer, car c'est pas n'importe quoi, mais ce n'est pas aussi quelque chose d'extraordinaire à réaliser. Il faudrait pouvoir vous envisager, former des gens en 6 mois, 1 an, qui prendront le relais, qui pourront, là où ils sont, réaliser cette mnémothérapie musicale.
Oui, bien sûr. Ça dépend aussi de ce qu'ils ont appris avant, de leur niveau. Mais sur le principe, je donne des cours tous les ans dans la faculté de psychologie, grâce à Monsieur Quadéry, que je salue aussi au passage. Donc, je donne des cours de mnémothérapie. En 2 jours, je fais à peu près le parcours. Et les psychologues qui ont déjà une très forte formation sont tout à fait habilités très rapidement à l'exercer. Et pour quelqu'un qui ne serait pas formé, bien entendu, s'il veut apprendre, ce sera plus long. S'il veut comprendre, ce sera plus long. Mais le principe, et on va, si vous voulez, le donner tout de suite, la pratique est extrêmement simple. Ce qu'il faut, c'est retrouver les thèmes musicaux qui ont été connectés dans le passé. Alors bien sûr, personne ne le sait au monde, on n'a même pas l'individu intéressé, même pas la personne Alzheimer, mais il faut par la discussion avec les familles, par la connaissance de l'individu, par le hasard, bien entendu, par le pic de réminiscence. On sait qu'entre 10 ans et 25 ans, c'est là que les choses se passent et se figent au maximum. Donc avec tout ça, eh bien, on peut franchement très facilement retrouver, de façon individuelle bien sûr, personne n'a les mêmes souvenirs que son voisin, donc ça ne peut pas être en groupe, mais de façon individuelle retrouver et constituer petit à petit une playlist qui, une fois constituée, et c'est ça l'élément déterminant, va pouvoir être reproductible tous les jours et donc entraîner d'une certaine façon un travail, une rééducation de cet espace par défaut, qui est malheureusement en panne, semble-t-il, chez la personne Alzheimer.
Jean-Claude, vous auriez à conclure, car malheureusement, notre voyage va devoir s'arrêter et nous allons renoncer à quelques étapes. Qu'est-ce que vous diriez en synthèse au terme de cette émission ?
Eh bien, je crois que il faut insister sur quelques éléments très particuliers. Le premier, me semble-t-il, et là, je ne fais d'une certaine façon que reprendre ce que Madame Roumanoff a très bien écrit dans un de ses livres. Je crois que, aussi dramatique que soit une maladie d'Alzheimer, il faut savoir, c'est le premier point, que cette maladie n'exclut pas le bonheur. Ça me paraît fondamental. Le deuxième élément, non moins fondamental, c'est le fait que ce n'est pas en faisant écouter de la musique que l'on fait de la mnémothérapie. C'est en retrouvant spécifiquement un certain nombre de thèmes musicaux et surtout en étant présent. C'est l'empathie respective qui va jouer. Je crois que la reviviscence est un moment merveilleux, mais qui se construit à deux. Et si vous le permettez, j'aimerais conclure alors vraiment sur une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'admire beaucoup. J'aimais beaucoup Madame Lévy-Montalcini, prix Nobel de médecine, qui nous a quittés il y a 2 ans, et qui disait qu'en matière de thérapie, une thérapie ne doit pas seulement chercher à ajouter des jours à la vie, mais de la vie aux jours. Et il me semble que c'est ce que nous essayons de faire.
Jean-Claude, merci. Et je crois que ce que vous êtes en train de dire nous concerne tous, ayant ou non la maladie d'Alzheimer. Je crois que c'est une très très belle phrase. Pour en savoir plus, note de synthèse sur le site. Cette émission sera sur le site http://art-culture-éducation-singulier-relié.com/dimanche-soir. Vous aurez cette émission, une note de synthèse, les livres commandés par Jean-Claude et par moi. Merci beaucoup.
Cette émission se termine sur une musique de Wagner, choisie par Jean-Claude. Nous n'avons pu aborder le thème vaste, certes, de la santé en France, de la médecine, soit l'étape numéro 5 fixée au départ. Cela fera l'objet d'un chemin de copie pour septembre 2016. Nous n'avons pu poser aussi notre questionnaire, cela se fera dans ce chemin de copie où le temps n'est pas limité. Merci Jean-Claude de cet entretien passionnant. Nous avons réuni tous les deux, pour vous, une bibliographie qui est mise en annexe dans la note de synthèse sur le site. À vous, auditeurs qui venez d'écouter Jean-Claude sans le voir, je vous invite à poursuivre la découverte de ses travaux et relisez la note de synthèse ou écoutez bien l'émission, il vous dit comment prendre contact avec lui. En 2017, j'espère qu'en plus de ses travaux de recherche, de ses articles, déjà nombreux, il publiera son premier ouvrage, accessible à tous. Je vais vous faire une confidence. outre ses compétences reconnues de tous, outre un réel esprit de recherche, mais aussi d'agir, Jean-Claude, que je connais depuis des années, est un homme qui sait écouter, dont l'esprit vif et en éveil ne cesse de nous surprendre. Il dispose d'une culture, d'une humanité que l'on aimerait rencontrer plus souvent, y compris dans le milieu médical. Il y a chez lui du médecin de campagne, si vous avez vu ce film, mais il y a en plus une bonté sans limite, une empathie, oui c'est cela, une empathie très rare. Par ailleurs, il est accompagné d'une femme merveilleuse qui, ancienne infirmière, vient d'être diplômée en hypnothérapie. Un couple qui nous dit à sa manière « Si vous le voulez, le plus bel âge de la vie, c'est à partir de 60 ans et tout ce qui s'ensuit. » Ce couple, qui après 40 ans de vie commune, dit aussi « Vous savez, ce qui est essentiel, c'est que l'autre soit plus important que moi. C'est certainement la base de notre amour. » Nous allons nous retrouver, chers auditeurs, vendredi 29 avril pour une émission exceptionnelle sur Picasso. C'est vraiment un nouveau regard sur Picasso. Et nous allons nous quitter en attendant sur cette musique de Strauss, choisie aussi par Jean-Claude.
Thank you.